Je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. La misère, voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Il y a dans Paris des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infectes de chiffons en fermentation ou des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres? Ces jours-ci, un malheureux homme de lettres est mort de faim. Mort de faim. Et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Eh bien, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté, pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière, que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que ce ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. Voilà pourquoi je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but. L'abolition de la misère. Ces quelques mots ont été prononcés le 9 juillet 1849 à la tribune de l'Assemblée nationale législative par un jeune député qui se nommait Victor Hugo. Bon, peut-être serez-vous d'accord avec moi pour considérer qu'il s'agit d'un discours à la fois émouvant et convaincant. Eh bien, c'est précisément ce qui m'intéresse. Il existe un lien entre l'émotion et la conviction. C'est parce que les paroles de Victor Hugo ont le pouvoir de nous émouvoir qu'elles acquièrent la force de nous convaincre. Ce lien est d'ailleurs connu depuis longtemps. Il y a 2500 ans déjà, Aristote considérait que le pathos était une dimension essentielle de ce qu'il appelait la rhétorique. Et aujourd'hui, ce lien entre émotion et conviction est validé par les sciences cognitives et comportementales. Ce qui pose un problème, celui de la manipulation. Car si l'on peut être amené à accepter ce par quoi on a été touché, cela signifie que nos émotions peuvent nous manipuler. C'est ce qui se produit quand un orateur parvient habilement à nous émouvoir avec un discours mensonger, c'est-à-dire un discours qui ne correspond pas à la réalité du monde. Je vous donne un exemple. Août 2002. Le vice-président des États-Unis d'Amérique, M. Dick Cheney, effraie la terre entière en déclarant ceci : il n'y a désormais plus aucun doute, Saddam Hussein dispose d'armes de destruction massive. La peur que l'on a ressentie à l'époque était réelle. Elle avait été suscitée par un discours. Mais ce discours reposait sur des faits erronés. Quelques années plus tard, l'administration américaine a reconnu avoir menti. L'Irak ne disposait pas d'armes de destruction massive et Dick Cheney en était parfaitement informé. Alors pour autant, est-ce que toute utilisation des émotions dans le discours serait manipulatoire? Eh bien non, car nous ne sommes pas des ordinateurs. Le monde social n'est pas un tableau Excel. Pour prendre des décisions, nous avons besoin de notre intellect, bien sûr, mais nous avons aussi besoin de nos affects, de nos émotions. Et c'est la raison pour laquelle Victor Hugo a fait le choix d'un discours surchargé de pathos pour évoquer la misère devant ses collègues députés. Des députés qui, pour la majorité d'entre eux, n'avaient jamais connu que l'opulence. Pour eux, la misère, c'était un concept théorique. Si Victor Hugo voulait avoir une chance d'influencer leur vote dans l'hémicycle, il devait d'abord parvenir à changer leur regard sur le monde, et pour cela, il avait besoin de s'adresser à leurs émotions. Si je vous raconte tout cela, c'est parce que ça fait plus de 10 ans que j'étudie l'art de l'argumentation et que je l'enseigne aux citoyens, à tous les citoyens, aux étudiants de Sciences Po comme aux lycéens de Montreuil, aux salariés du privé comme aux militants associatifs, pour leur apprendre à ne pas se laisser manipuler, mais aussi pour leur apprendre à défendre leur pensée, leur point de vue, de manière efficace, certes, mais aussi de manière éthique. Et alors, qu'est-ce qu'un spécialiste en rhétorique a à dire de l'émotion dans le discours? Eh bien, voyez-vous, classiquement, il existe trois procédés qui permettent de créer de l'émotion dans le discours. Et on les retrouve justement dans le discours de Victor Hugo. Souvenez-vous, Victor Hugo commençait par assimiler la misère à la lèpre, à une maladie du corps social. Ça n'est pas un hasard. En rhétorique, on appelle ça un travail de métaphorisation. L'utilisation d'une image, d'une comparaison pour véhiculer un message. En l'occurrence, cette comparaison permet à Victor Hugo de susciter une émotion bien précise, le dégoût. Dégoût de la misère, comme nous avions le dégoût de la lèpre. Et ce dégoût provoque chez nous une volonté de passer à l'action, volonté d'éradiquer la misère, comme nous avons eu la volonté d'éradiquer la lèpre. Je vous disais que c'était une utilisation très classique. Téléportons-nous en 2002. Pour vous donner un autre exemple, en 2002, à Johannesburg, avait lieu le Sommet de la Terre. Le Sommet de la Terre qui était l'une des premières grandes conférences internationales sur le réchauffement climatique. De la tribune de Johannesburg, le président de la République française, Jacques Chirac, va lancer une figure qui restera célèbre. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était une comparaison. Elle était faite pour susciter des émotions. En l'occurrence, la surprise d'abord, et ensuite la colère, la volonté de passer à l'action. Mais revenons à Victor Hugo. Dans la suite de son discours, souvenez-vous, Victor Hugo se lançait dans une longue description pour expliquer tout ce que les familles peuvent faire pour échapper comme elles le peuvent au froid de l'hiver. Cette description n'est pas non plus un hasard. La description est un des moyens de créer de l'émotion chez un auditoire. En l'occurrence, le travail émotionnel de Victor Hugo est très intéressant. Il cherche à susciter de la tristesse. Tristesse qui, chez nous, mène à la honte. Une honte qui mène à la colère. Et c'est cette colère qui nous incite à passer à l'action. Je vous donne un autre exemple. Plus dérangeant, celui-là. 1974. À l'Assemblée nationale, Simone Veil défend la loi légalisant l'avortement. En face d'elle, plusieurs députés mène un travail d'opposition. Parmi ses députés, M. Pierre Bas. Pierre Bas qui, de la tribune, n'a pas hésité à décrire les poubelles où s'entasseront les petits corps de ses enfants avortés. Les poubelles où s'entasseront les petits corps de ses enfants avortés. Voilà une description qui était utilisée pour créer une image choc, susciter une émotion de dégoût et inciter à ne pas voter la loi. Revenons à Victor Hugo. Troisième étape de son discours, c'est cette narration, ce récit d'un homme de lettres qui est mort de faim faute de n'avoir pas pu s'acheter à manger. Là encore, ça n'est pas dû au hasard. La narration, c'est le troisième procédé classique pour faire émerger des émotions. En communication contemporaine, c'est ce qu'on appellerait le storytelling. Chez Victor Hugo, on retrouve là le même travail émotionnel que tout à l'heure. Hein. Tristesse, honte, colère, passage à l'action. Un dernier exemple, pour vous montrer que c'est un procédé très classique, il a notamment été utilisé par Robert Badinter dans son combat contre la peine de mort. En 1977, Robert Badinter, il est alors avocat, il défend le meurtrier Patrick Henry. Son seul effort au tribunal, c'est d'essayer de lui éviter la peine capitale. Dans sa plaidoirie, il se tourne directement vers les membres du jury et il leur explique ce qui va se passer s'il condamne son client à mort. Il leur dit ceci. Le temps passera, je vous le dis. On abolira la peine de mort. Et vous resterez seul avec votre verdict pour toujours. Et vos enfants sauront qu'un jour vous avez condamné à mort un jeune homme. Là encore, cette narration avait pour but de provoquer des émotions, en l'occurrence la peur et la honte. Métaphorisation, description, narration. Voilà les trois outils classiques du discours qui permettent de susciter des émotions chez un auditoire. Ce que cela nous montre, c'est que les émotions ne sont pas totalement mystérieuses. Elles peuvent être travaillées, façonnées et utilisées de la manière la plus noble ou la plus contestable. Mais au-delà, ce que nous venons de voir avec les émotions, ça n'est qu'une déclinaison particulière d'un constat plus général. La rhétorique est une technique. Elle s'apprend. Elle s'enseigne. Et je plaide, moi, pour qu'elle soit diffusée le plus largement et le plus tôt possible, probablement dès le collège, parce que nous en avons tous besoin. Que ce soit dans nos vies citoyennes, professionnelles ou même dans nos vies personnelles, nous avons tous besoin de convaincre et de ne pas nous laisser manipuler. Car oui, la rhétorique est un pouvoir. La seule manière de garantir que ce pouvoir sera utilisé équitablement, c'est de s'assurer qu'il soit partagé par tous. Je vous remercie.